Le stade olympique a fait beaucoup jaser dans les derniers mois, autant pour des rumeurs de retour du baseball à Montréal que pour une possibilité de tenir certains matchs des Alouettes ou même du CF Montréal. Et on a récemment appris que dans le cadre de l'expansion de son calendrier passant de 16 à 17 matchs, la NFL avait ciblé le Canada pour présenter des matchs. Évidemment, les gestionnaires du stade olympique ont levé la main, sont intéressés. Parc olympique, qui gère le stade pour le gouvernement, a affirmé que l'organisme était ouvert à l'idée. Bref, tout le monde veut, c'est sûr. Mais est-ce que tout ça est vraiment réaliste? Ray Lalonde va décortiquer ça pour nous. Salut, Ray.
Bonjour, Evelyne.
Dis-moi, dans l'annonce de beaux projets comme ça, là, tout le monde est content et motivé, mais dans les faits, est-ce que Montréal est réellement une destination qui est prisée par la NFL? Parce que Roger Goodell, il a parlé du Canada, il n'a pas dit Montréal.
Oui, c'est un bon point. Je ne crois pas, honnêtement, Evelyne, pour la simple raison que je ne suis pas certain que les conditions actuelles au stade olympique sont favorables à la tenue d'un match de saison régulière. Et je vais t'expliquer un peu mon raisonnement derrière ça. Pendant quelques années, en 2008 et 2013, les Bills de Buffalo ont joué des matchs au Rogers Center à Toronto. Les Bills trouvaient que c'était difficile pour eux d'attirer une foule de 80 000 personnes à Buffalo même. Ils trouvaient que c'était important de peut-être aller conquérir le marché de Toronto. Ça a été un succès au début, pas trop à la fin. Les billets étaient trop chers et le stade était plus ou moins convenable. Ça veut dire du côté technique, du côté électronique, et il y a beaucoup de choses qui rendaient le stade, et là on parle du Rogers Center à Toronto, un petit peu moins adapté aux besoins de la NFL. Bon, j'étais avec l'organisation du dernier match de la NFL qui a eu lieu à Montréal en 1990. J'avais été embauché par les Steelers et la NFL pour aider M. Jerry Snyder à organiser ce match-là. C'était les Patriots contre les Steelers. C'était le American Bowl. Puis il y avait une foule d'à peu près 27-28 000 personnes à l'époque. C'était pas convaincant non plus pour la NFL à ce moment-là. On remonte il y a 30 ans presque. Et c'est certain que le stade est... C'est rénové, c'est amélioré, puis on a apporté des modifications, des améliorations locatives, si on veut, dans le stade. Mais il demeure une chose, c'est que la NFL, dans l'ère moderne, Evelyne, recherche des environnements qui sont extraordinaires pour créer un événement de haute qualité. Il y a 2 ans, les Raiders et les Packers ont tenté d'aller jouer au nouveau stade à Winnipeg, fraîchement construit, là. Puis là, ils sont rendus sur l'espace de jeu, puis ils ont réalisé que le terrain ne convenait pas. Ils ont été obligés de déplacer les poteaux 24 heures avant, puis ils ont joué sur une surface de 90 verges au lieu de jouer sur 100 verges. Ces expériences-là, c'est pas de nature à aider la NFL à être convaincue qu'on va prendre des chances dans des stades qui sont pas tout à fait adéquats. Alors, ça se peut que Montréal soit candidate. Vancouver et Toronto le seraient aussi, bien sûr. La NFL est obligée, par la convention collective qu'ils ont signée il y a 1 an, de jouer des matchs saison régulière internationaux pour les 10 prochaines années. Toutes les équipes vont participer au moins une fois en 8 ans. Donc, 32 équipes, 8 ans, ça veut dire 4 par année, 2 matchs minimum. Londres, l'Allemagne, quelques endroits en Europe, Mexico, ce sont des emplacements possibles. Et le Canada, évidemment, parce qu'il y a une énorme base de fans de la NFL au Canada. La question, c'est dans quel stade?
C'est ça.
Je ne suis pas certain que Montréal est candidate.
Mais les gens qui sont fervents de l'idée te répondraient qu'en 1977, les Alouettes ont joué un match devant 69 000
oui.
personnes.
Et j'étais là.
Et t'étais là. Bon, j'étais pas né, ça ne te rajeunit pas, mais...
Non.
Mais ça, c'est la Ligue canadienne de football. Là, on parle de NFL. Est-ce que tu penses que l'intérêt pour le football NFL est assez grand ici pour qu'on remplisse autant qu'à l'époque, en dehors des données techniques qui,
ouais,
comme tu as dit, là, sont pas...
C'est une bonne question parce que admettons qu'on avait un stade flambant neuf pour la NFL. Les gens se disent, oui, la NFL, c'est tellement mieux, tellement de meilleure qualité que la Ligue canadienne. Bon, c'est vrai là, que le niveau de jeu est plus élevé. C'est un sport un peu différent. Mais c'est certain que la NFL viendra au Canada, Evelyne, puis ce serait probablement la fin de la Ligue canadienne, qui d'ailleurs souffre actuellement de la pandémie et d'un manque d'identité puis d'un manque d'avenir. Il n'y a pas de plan concret là pour même débuter la saison prochaine. C'est difficile financièrement pour la Ligue canadienne. Mais ceci étant, est-ce que les gens à Montréal iraient à la NFL 10 matchs par année à raison d'un 60-70 000 personnes? Tu sais, au départ, probablement que oui. La nouveauté fait toujours foi d'une énorme sympathie vers le produit. Mais si ton équipe n'est pas très performante, ce qui risque d'être le cas, est-ce qu'on est capable de soutenir ça pendant 10, 15, 20 ans avant d'avoir une équipe aussi compétitive que les Patriots, par exemple, ou que les Packers. Ça, c'est toujours le même défi. Moi, je pense qu'il y a un marché de la NFL au Canada. Je suis pas certain nécessairement qu'il y a un marché de consommation lors de matchs en direct sur place. Toronto a prouvé déjà que c'était loin d'être facile, puis ça fait déjà quelques années de ça.
Et en dehors du stade olympique, je veux t'entendre justement sur ce passage de 16 à 17 matchs. Comme tu l'as dit tantôt, ça faisait partie de l'entente collective signée l'an dernier, valide jusqu'à 2030. Donc, c'est pas une surprise. L'option était déjà là, les joueurs oui. la connaissaient. Et je pense que les joueurs font partie des heureux de ça, parce que ça leur donne plus de bénéfices, là, plus de revenus, d'assurance, de oui. fonds de pension, etc. Mais côté partisans, nous aussi, on est contents. Ça fait un match de plus le dimanche. Mais moi, j'ai peur que ça joue au niveau statistique. Ça fait depuis 1978 que la NFL est à 16 matchs. Là, on passe à 17. Ça va gonfler les records. Est-ce que c'est vraiment positif, ça?
Bien, ça fait partie un peu de l'évolution naturelle qui est toujours motivée par l'argent, Evelyne. honnêtement, il n'y a pas d'autre raison. Là. Ouais. Un 17e, cette fraction-là, c'est des milliards de dollars. Et alors, je veux juste te dire que parmi les joueurs de la NFL, les joueurs vedettes, les joueurs qui gagnent bien leur argent, n'étaient pas intéressés à un 17e match. Ceux qui ont voté en faveur, dans un vote qui s'est terminé 51-49 en pourcentage, là, c'était les joueurs qui gagnent le salaire minimum.
Ah ouais.
Puis il y en a 60% des joueurs de la NFL, Evelyne, qui gagnent à peu près 600 000 par année. Dans des carrières qui durent en moyenne 4 ans, il faut que c'est de l'argent durement gagné. Ceux qui ont apprécié ça, ce sont les diffuseurs, ce sont les partisans et ce sont les dirigeants de la Ligue et les propriétaires. Parce que eux augmentent instantanément les revenus qui vont vers eux à cause d'un 17e match, parce que c'est plus de contenu. Ils ont sacrifié un match d'avant-saison pour en rajouter un en saison. Ça serait pas étonnant que d'ici quelques années, on passe à 18, pourquoi pas? 17, c'est un chiffre un peu bizarre. Mm-hmm. 18, ça serait encore mieux. Alors, ultimement, c'est toujours une question d'argent qui motive ces raisons économiques-là.
Autre sujet dont tu veux nous parler, et j'étais tout à fait d'accord et très heureuse que tu me parles de ça, ce soir, c'est le match de championnat pour les 4 finalistes chez les femmes dans la NCAA. On a beau être en 2021, ça a beau être le plus gros tournoi de basket collégial américain, il y a encore plein d'inégalités entre les hommes et les femmes.
Oui, c'est un sujet qui mérite qu'on y apporte de l'attention, Evelyne, parce que c'est le March Madness pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Mm-hmm. Et pourtant, la NCAA ne permettait pas aux femmes d'utiliser le terme March Madness. C'était même pas inscrit sur le centre du terrain. Ça, c'est une inégalité. Ensuite, tu as eu le tweet de Sedona Prince, qui joue pour l'Université de l'Oregon, qui, il y a 2 semaines, a avisé tout le monde que la salle d'entraînement disponible pour les femmes, c'était littéralement comme une salle de ménage avec 2-3 petits haltères et c'était tout.
Hey Ray,
un grand gymnase.
Je t'arrête, je t'ai sorti la clip, on va la faire entendre.
Vas-y.
I got something to show y'all. So for the NCAA March Madness, the biggest tournament in college basketball for women, this is our weight room. Let me show y'all the men's weight room.
Et là, ce qu'elle vient de pointer, c'est une petite tour avec 4 paires de poids. Et là, elle montre la salle d'entraînement des gars qui est grande comme un gymnase.
Comme un gymnase.
Versus the men's, the NCAA came out with a statement saying that it wasn't money, it was space that was a problem. Let me show y'all something else. Here's our practice court, right? And then here's that weight room, and then here's all this extra space. If you aren't upset about this problem, then you're a part of it.
Donc là, ce qu'elle dit, c'est que l'excuse qu'ils se sont fait donner, ce qu'ils se sont fait répondre, c'est que ça, c'est pas une question d'argent, c'est une question d'espace. Et là, elle montre la salle. Ils ont une salle qui est immense, qui est complètement vide. Donc, ouais. c'est un mensonge, ça aussi.
Bien, la NCAA a mal géré. Littéralement, Mark Emmert, qui est le président de la NCAA, est en grande difficulté parce que ses décisions au cours des derniers mois n'ont pas été très intelligentes. Il mérite d'être critiqué. Les femmes entraîneurs d'équipe féminine de la NCAA se sont réunies cette semaine pour parler de ce dossier-là. Il y a d'autres situations. Par exemple, le terrain utilisé à l'Université du Texas n'était même pas décoré des couleurs graphiques de la NCAA et du March Madness. Evelyne, c'est beaucoup d'inégalités qui font en sorte que c'est pas acceptable en 2020 que les femmes ne puissent pas bénéficier des mêmes avantages. Là, on parle pas des audiences télé, on parle pas de l'argent, tu comprends-tu? On parle juste d'avoir les mêmes infrastructures quotidiennes disponibles pour elles mm-hmm. dans un tournoi qui est aussi passionnant que celui des hommes. J'ai regardé les matchs vendredi, je vais regarder le match ce soir Stanford contre Arizona, match des femmes de championnat. Je peux te le dire, c'est aussi passionnant puis palpitant. C'est juste que si on y accorde pas de l'attention, puis on se déplace pas quelques minutes pour suivre ça. On peut pas vraiment comprendre ce qui arrive pour les femmes. Alors, j'encourage les gens à suivre le match, comme c'était le cas hier soir pour les hommes entre Gonzaga et UCLA, et ça va être un grand match demain soir aussi pour les hommes. Mais il faut regarder pour comprendre un peu mieux pourquoi c'est toujours une question qu'il faut reparler. C'est pareil comme le hockey féminin versus le basketball féminin. Comment ça se fait qu'il y a une ligue qui s'appelle la WNBA qui paye des filles 150 000 $ en moyenne pour jouer et gagner leur vie, tandis qu'au hockey, les filles essaient de jouer à un niveau nord-américain avec les États-Unis, puis on les paye 2, 3, 5, 10 000 $ par année pour jouer. C'est pas logique que la NHL ne s'implique pas davantage non plus pour supporter le hockey féminin. Alors, à un moment donné, il faut en parler si on veut avoir du changement.
Et tu vois, la vidéo TikTok dont tu parlais tantôt, là, qu'on vient de faire entendre aux gens, elle a été vue à 10 millions de reprises, voilà. Même un peu plus. Je pense que ça va faire son chemin, tout ça, en tout cas, je l'espère. Et on termine avec LeBron James, qui est officiellement devenu propriétaire minoritaire des Red Sox. Alors lui, il continue de grossir son empire.
Ben c'est sûr que c'est un exemple extrême d'emmener sa carrière qui est déjà fulgurante, qui continue de bien évoluer avec les Lakers. Ils sont encore des aspirants au championnat cette année après l'avoir gagné l'an dernier. Evelyne, je le mentionne parce que LeBron James a pris le temps de bien gérer sa carrière depuis le début et surtout ce qu'il fait en dehors du terrain. Et là, son film Space Jam 2 va sortir le 16 juillet prochain. Avec Warner Brothers. Les Lakers sont encore des aspirants. Il est propriétaire à 2% de Liverpool FC en Europe, dans la Premier League. Là, il vient d'acheter 1% avec son partenaire Maverick Carter des Red Sox de Boston. Alors, tu vois qu'il investit son argent, sa richesse, ses intérêts dans de la production cinéma, production de documentaires. Il fait plein de choses en dehors du terrain qui démontrent un peu la nature des athlètes modernes d'aujourd'hui. C'est certain que lui, il a une plateforme plus grande que les autres, mais je prends le temps de le souligner parce que c'est un bon exemple à suivre.
Oui.
C'est de se divertir et de diversifier aussi dans son investissement pour pouvoir mettre les mains dans plusieurs choses et bien préparer la carrière après l'activité physique.
Mais est-ce que tu penses qu'il fait juste mettre de l'argent ou il s'implique réellement de son temps dans chacune de ces activités-là?
Alors, je pense qu'il s'implique, surtout au niveau production télé, vidéo, ces émissions qui passent sur les différentes antennes. Ça, il le fait personnellement parce qu'il participe directement. Mais je pense que tu vois que c'est une bonne chose qu'un gars comme LeBron James achète une minorité des Red Sox. Parce que s'il y a un sport qui a besoin de modernité, d'un rajeunissement, d'un virage et d'un nouveau visage pour influencer, ben c'est bien le baseball. Alors, LeBron James va apporter quelque chose que les Red Sox vont vraiment apprécier. Puis c'est pour cette raison-là aussi que sa plateforme mondiale continue d'augmenter, parce qu'il va même au soccer international avec Liverpool. Et ça, ce sont des choses qui sont importantes pour lui. C'est un gars qui veut gagner, puis je pense que, honnêtement, il veut acheter une équipe à temps plein un jour. Pareil comme Michael Jordan a fait avec les Hornets de Charlotte. LeBron James en veut une lui aussi. C'est sûr que ces gars-là, comme j'ai dit, ce sont des exceptions, mais ce sont de bons exemples.
Merci, Ray. C'était pertinent, comme d'habitude.
Joyeuse Pâques, Evelyne.
Toi aussi. Salut, bonne semaine. Après la pause, on va faire le tour de l'actualité sportive ensemble. Et il y a un gars qui a perdu son doigt dans un combat de MMA. Je vous raconte ça dans un instant.